Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end extrêmement intense. Vous allez pouvoir le vérifier sur RMC. Vous allez vous régaler tout au long du week-end avec nous. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, la grande finale du top 14, l'affiche de rêve entre le Stade Toulousain et l'UBB. Qui a le plus la pression? Ce sera notre première question autour de cette finale. C'est la une des GG dans quelques instants. 10h. L'Olympique Lyonnais au bord du gouffre, rétrogradé en Ligue 2 cette semaine par la DNCG. Le football français doit-il tout faire pour sauver l'OL? Ce sera notre bras de fer. 11h. Paul Pogba, Olivier Giroud débarquent en Ligue 1, l'un à Monaco, l'autre à Lille. Les champions du monde 2018 sont-ils encore des bonnes affaires? Vous n'êtes pas d'accord, mais GG, on va en débattre évidemment. Et puis on parlera aussi de Canal+, nous l'avons appris hier soir, qui jette l'éponge. Et dans une interview à retrouver chez nos confrères de l'équipe, le partenaire historique de la Ligue 1, enfin l'ex-partenaire historique de la Ligue 1, ne participera donc pas à l'aventure de la création de cette chaîne de la Ligue. Nous en parlerons, on va vous expliquer tous les derniers éléments. Bref, une émission extrêmement riche ce matin. Avec les grandes gueules du sport que je vous présente tout de suite, une grande gueule qui, comme John Textor, on n'est pas sûr qu'il passe l'hiver. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JT, salut tout le monde.
Ni l'été d'ailleurs, ni l'automne.
En plus, il me reste pas grand chose au fond des poches, donc je suis pas sûr que ça puisse se régler avec
avec la caillasse.
Avec ce que j'ai sur le compte en banque.
Très bien, ça va Simon?
Ça va et toi?
Bah oui, on va te retrouver tout l'été.
Ah ben c'est, tu sais, c'est le moment où j'entre en scène, moi, le précaire, tu sais. Voilà, évidemment, pendant que tu vas aller couler des jours heureux voilà, dans une destination de rêve, évidemment.
Évidemment, évidemment. Comme d'habitude, tu me connais. Simon, très heureux de te retrouver.
Ravi,
et
copain.
Très heureux de te voir dans cette émission tout l'été, évidemment, mon cher Simon. Une grande gueule qui, comme John Textor, il joue avec l'argent des autres. Denis Charvet, salut Denis.
Et le mien aussi.
Oui, et le tien.
Et le mien.
Et les autres.
Et les autres, oui, non.
Plutôt le mien, quand même.
Non, souvent, c'est le mien.
En ce moment, c'est bien,
oui,
c'est sûr.
Mien, ouais.
Ça va, Denis?
Ça va, impeccable.
Ouais. Écoute,
c'est ma dernière de la saison.
Non.
Et oui.
Mon Denis.
Et oui. Je serai pas là la semaine prochaine et c'est la dernière.
C'est la dernière, très bien.
On part sur le bassin d'Arcachon, peut-être?
Oui. Le bassin m'attend.
Ouais. Combien de temps de vacances, à peu près, toi? 6 semaines?
Pas assez.
7 semaines?
Oui, 7, 8. On prend le 24 août, je suis
sûr. Ah oui, très bien.
Le Moscato Show le 24 août, donc il faudra que je sois ici.
Profitez de Denis maintenant, mais rassurez-vous, dans 2 mois, il sera frais, reposé, bronzé.
Je te rassure.
Il sera de retour.
Il y a quand même tous les mescaf tout l'été du Moscato Show.
Oui, on va t'entendre encore.
Dans toutes les conneries, tu vas avoir tout l'été.
Ok, ça nous fait plaisir.
Si vous le cherchez, 19h tous les soirs au Balap, pour ceux qui connaissent.
Oui, on la tourniche, j'ai mon ami William Téchouard.
Ça, c'est à midi, ça.
Ok, bien la promo. Une grande gueule qui, comme John Textor, il a du mal à sortir les billets de la poche. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Pourquoi tu dis ça?
Comme tout bon Auvergnat.
Oui, je suis pas Auvergnat. Je suis Drômois.
Oh oui, et c'est pareil, non?
Problème, c'est que tu as vécu longtemps en Auvergne.
Ouais, j'ai vécu longtemps en Auvergne.
Et forcément, il y a des principes qui sont là et qui restent. Ça va, mon Philippe?
Très bien.
Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu dans cette émission. Moins de mois.
C'était les week-ends du Cination.
Ça fait très longtemps.
Et donc là, week-end de finale, je suis là.
Et on est très heureux de te retrouver, voilà. Parce que tu vas nous apporter beaucoup de choses, enfin on l'espère.
Par contre, moi, je pars pas 9 semaines en vacances comme Denis Charvet.
Mais toi, tu prends du pognon, tu vas attaquer la saison.
Comme dit Vincent, lundi, je repars au Mastic, je reprends Provence Rugby. Voilà, donc c'est ma dernière aussi.
Monsieur a un vrai métier.
Je vais avoir de nouveau un vrai métier.
Et ben, bon courage, on te souhaite évidemment plein de bonnes choses, mon cher Philippe. Et puis une grande gueule qui, contrairement à John Textor, il a vite arrêté de faire du cinéma. Fred Weiss, salut Fred.
Salut. Malheureusement, j'ai arrêté très tôt. Oui.
On en est où du biopic de l'abbé Pierre? Ça se vend toujours, non? On file les cassettes, alors, on file le DVD. Que...
Est-ce que vous avez brûlé toutes les cassettes?
Il y a plus de cassettes pour toute ma famille, en fait.
Bravo, mon cher Fred. Ça va, mon Fred?
Oui, ça va très bien.
On s'est croisé cette semaine.
Exactement.
On était à l'Adidas Arena pour le match 5, pour voir du vrai sport.
Ça m'a fait plaisir de te voir.
C'était absolument exceptionnel. Franchement, je sais que tu vas en parler dans les GG contre-attaque. Franchement, ce qu'ils ont réussi à faire avec ce club de basket, Paris, c'est vraiment prodigieux parce que c'est vraiment un engouement pour tous, hein, pour les fans, pour la famille, c'est vraiment un régal.
On y passe un excellent moment.
Exactement.
En basket, mais en plus, c'est vrai qu'il y a tout le décor en autour et c'est très intéressant.
Tu en parleras un petit peu plus tard dans cette émission. Alors aujourd'hui, écoutez-moi bien, chers auditeurs, dans les grandes gueules du sport, on fête le début du Tour de France avec Skoda, partenaire majeur de la Grande Boucle. Nous vous proposons de vivre une expérience unique lors de la 4e étape du Tour. Ce sera le mardi 8 juillet prochain entre Amiens Métropole et Rouen. L'expérience Skoda. Alors c'est quoi ? Eh bien vous arrivez la veille de l'étape, il y a le dîner, la nuit dans un bel hôtel. Ensuite le jour de l'étape, il y a une sortie vélo avec les ambassadeurs de la marque, la visite du village départ, le départ en amont des coureurs, arrêt sur le parcours pour voir passer les coureurs, survol du peloton en hélicoptère, reprise de la voiture justement pour aller direction la ligne d'arrivée, le déjeuner, la nuit à l'hôtel VIP. Bref, un magnifique pack avec Skoda. Vous envoyez à partir de maintenant étape au 732-16. Étape au 732-16. Et si vous êtes tiré au sort, vous serez en direct dans cette émission. C'est donc le mardi 8 juillet prochain. Un magnifique cadeau dans les grandes gueules du sport. Allez, on va débuter cette émission avec cette citation de Max Gallo qui a dit un jour: la pression médiatique associée à celle de l'opinion rend l'exercice du pouvoir très compliqué.
La une des grandes gueules du sport.
Aura, on est à 5 mètres face au poteau, il en fond de tout, les Toulousains. Il en fond de tout et ça va aller à l'essai. 8e essai. C'est terminé. Jamais rassasié. Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus.
Alors, revanche ?
Non, ça suffit. Ça suffit. Merci. Merci beaucoup.
Le premier essai bordelais. Quelle action de Mathieu Jalibert. Avec sur le côté fermé l'essai. La passe sautée. Quel diarrhée. Il est monstrueux. C'est un jour incroyable pour l'Union Bordeaux-Bègles. Alors bien sûr, ils n'ont pas remporté de titre, mais l'Union Bordeaux-Bègles va faire tomber sa bête noire, le Stade Toulousain.
On se fait la belle.
C'est l'épilogue du top 14 ce soir à 21h05 au Stade de France. Le remake de la saison dernière, Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles, les deux places fortes désormais du rugby français, se disputent le bouclier de Brennus. 23 déjà dans l'histoire pour les Toulousains, 0 pour l'UBB d'un côté, la peur de la saison blanche de l'autre, la peur de reprendre une branlée et de voir encore le Graal leur échapper. La musique qui fout les jetons et cette question. Stade Toulousain UBB, qui a le plus la pression ? Denis Charvet.
Toulouse.
Simon Dutin.
L'UBB.
Philippe Saint-André.
Stade Toulousain.
Fred Weiss.
Toulouse.
Ok, 3 Toulouse, 1 Bordeaux. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC qui sera évidemment en direct ce soir du Stade de France. Wilfried Templier, bonjour Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut.
Alors qu'en pensent justement les Bordelais et les Toulousains de cette pression ?
Bon, on est resté assez soft en veille de match pour tout vous dire. On a commencé par demander à l'arrière toulousain Thomas Ramos si la Champions Cup de Bordeaux, qui avait été acquise au mois de mai, et donc un titre déjà dans l'escarcelle, hein, des Bordelais, leur enlevait à eux un peu de pression, parce que les Toulousains ont connu ça en 2021 et 2023. Hein, à chaque fois contre La Rochelle, ils avaient déjà gagné un titre avant d'arriver en finale du top 14. Mais est-ce que ça en ajoute sur les épaules toulousaines qui, eux, risquent une saison blanche s'ils perdent ? La réponse de Ramos.
Eux, ils peuvent faire un doublé, nous, on peut faire un triplé. Est-ce que le titre de champion d'Europe les contente ? J'en ai aucune idée.
Nous, on a un petit problème, visiblement, avec le son. Je ne sais pas si on a perdu Wilfried Templier. Il va me le dire dans quelques instants.
Non, je suis là.
Tu es toujours là, mon cher Wilfried. Alors là, je vais meubler, comme on dit dans le métier. parce que, évidemment, ça s'agite en régie. C'est bon, on va réécouter. Et ensuite, vous allez pouvoir écouter attentivement notre cher Wilfried Templier.
Eux, ils peuvent faire un doublé, nous, on peut faire un triplé. Est-ce que le titre de champion d'Europe les contente ? J'en ai aucune idée. Nous, en tout cas, je sais que lorsqu'on l'a vécu, on s'en contentait pas. Donc voilà, il y a aussi des gros joueurs, des compétiteurs en face, donc certainement qu'ils ont envie de faire un doublé pour la première fois de leur vie. Donc voilà, je encore une fois, je vais pas parler à leur place. Ce que je sais, c'est que je pense qu'on a le groupe qui est prêt. Là, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il faut pas qu'on se cache.
Du haut de ses 6 finales remportées, hein, top 14 ou Champions Cup, Thomas Ramos, il apparaît pas écrasé par la pression. Hein. Il y a aussi une histoire de favori. Le manager Hugo Mola sait ce que ça peut engendrer, mais se délecte de rafraîchir certaines mémoires.
Il y a une posture d'avant-match, puis il y a une posture d'après-match. Et forcément, le statut de favori peut alourdir parfois les conséquences et peut-être un peu soulager, ou en tout cas, l'outsider a peut-être un petit peu moins de pression et de l'ordre de l'exploit. Donc, c'est le jeu. Amusez-vous à regarder ce que vous avez dit de nous sur les quatre dernières finales que l'on a pu jouer en championnat. Et je crois qu'on était très souvent pas favoris.
Mais alors, qui l'est vraiment? Le problème avec ces managers expérimentés, c'est qu'ils ne veulent pas tomber dans le panneau. On tente avec Yannick Bru.
Franchement, je vous laisse répondre à la question. Nous, et l'ensemble des joueurs et moi-même, on connaît les stades de Toulouse en finale. Ils sortent d'un 10 sur 10, 7 sur 7 en championnat. Donc, voilà, si vous voulez nous mettre favoris, mettez-nous favoris.
Voilà, on l'a eu à l'usure. Il en a presque perdu le fil sur la fin. Allez, on finit avec le centre de l'UBB, Nicolas Deporter. Lui, la pression, il la rejette complètement parce qu'il affirme tout simplement son ambition.
On assume ce rôle de champion d'Europe, mais on va pas s'arrêter à là. On a dit qu'on voulait s'installer à table des grands, donc c'est une chose de faite. Mais si on s'arrête sur ça, c'est inutile. Je pense faut confirmer maintenant. Donc on va essayer de tout faire pour réaliser ce doublé. Mais on va pas s'arrêter là. Et j'espère que pour les années à venir, on aura plein d'autres trophées inscrits sur le maillot. Ouais.
Voilà, pour résumer, l'avant-match bordelais sans complexe face à des Toulousains tapis dans l'ombre.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Qui a le plus la pression vous attend au 32-16? Supporters bordelais, supporters toulousains. Le stade toulousain pour toi Denis, pourquoi?
Évidemment qu'on pourrait penser que le stade toulousain n'a pas vraiment la pression, tellement ils ont de l'expérience et que ces finales, ils arrivent à les aborder comme il faut, à les appréhender dans le détail. Donc c'est souvent dans le détail que ces finales se joue, mais j'ai dit Toulouse parce que par rapport à l'impression générale que j'ai depuis les demi-finales et depuis un mois de voir l'UBB avec un tel état d'esprit, un tel enthousiasme, je crois que aujourd'hui l'UBB ils sont sur une espèce de dynamique très euphorique et qui fait que ça leur enlève beaucoup de pression. C'est pour ça que je mets plus la pression sur Toulouse qui a joué un triplé mais qui a aussi à se reprendre collectivement.
Il y a une vraie peur de l'échec pour toi?
Oui, je pense que, mais parce qu'ils craignent tout Bordeaux, tout simplement, parce qu'ils ont perdu en demi-finale de la Champions Cup, qu'ils ont perdu trois fois cette année, et que ça devient un peu leur bête noire. Donc il y a forcément dans leur tête, et bien, il y a pas du vrai doute, mais il y a quand même la réflexion de se dire, on peut perdre, quoi. Alors qu'avant, quand ils jouaient les finales, je pense que Toulouse, jamais ils disaient, on pourrait perdre. Donc c'est par rapport à ça que je mets la pression du côté de Toulouse. Mais après, on connaît Toulouse, on connaît ça, voilà, ce club avec ses titres. Donc. Mais bon, ils marchent tellement sur l'eau, l'UBB, que je me dis que voilà.
Ok, que la pression est plutôt de l'autre côté. Pourquoi la pression sur l'UBB, Simon Dutin?
Parce que j'entends, j'ai bien vu, j'étais assez surpris d'ailleurs par l'ampleur qu'a pris la déception toulousaine suite à l'élimination en demi-finale de Champions Cup. Mais bon, ok, Toulouse déteste la défaite parce que Toulouse ne connaît pas la défaite. Donc c'est toujours un petit peu difficile de la digérer, on l'a vu cette saison. Mais bon, Toulouse, ça, c'est plus où mettre les boucliers. Il faut faire de la place à Toulouse. Ouais, l'armoire elle est pleine. Je veux dire, Toulouse, s'ils perdent ce soir, ça restera la plus grande équipe du rugby français, de l'histoire du rugby. Toulouse, s'ils perdent ce soir, il y aura toujours l'excuse. Il n'y avait pas Dupont. À Bordeaux, si on perd, ce qui est une pression non discutable va devenir une obsession. Je vous renvoie à l'exemple de Clermont à la fin des années 90, au début des années 2000. Demandez aux Clermontois s'ils n'avaient pas la pression à chaque fois qu'ils allaient en finale, parce que il y avait le souvenir de la défaite, le traumatisme. Tu as envie d'accéder à une altitude que tu sens justement à ta portée, et puis tu n'y arrives pas. Bordeaux, c'est l'équipe sexy, mais qui en cas de défaite serait l'équipe Fanny, tu vois, si la patrouille de France.
Pas Fanny, ils ont gagné.
Si la patrouille
ils ont gagné un titre, ça, ils ont connu un peu le rugby, les mecs.
La Coupe d'Europe, ce sera jamais supérieur au Brennus. Allez demander aux Bordelais s'ils préfèrent le Brennus ou la Coupe d'Europe. Vous connaissez évidemment.
Yannick Bru l'a dit il y a quelques semaines d'ailleurs, que le Brennus était beaucoup plus important.
C'est une équipe magnifique, mais une équipe sans titre. Ça resterait l'équipe des phases régulières qui n'arrive pas à planter en finale. Donc évidemment qu'il y a une pression. Ils n'ont pas envie de devenir la nouvelle équipe spécialiste de la défaite, tu vois, l'équipe fabuleuse à regarder tout au long de la saison, mais qui trébuche toujours à 2 mètres du buffet, tu vois. Donc c'est normal que il y ait beaucoup de pression à Bordeaux parce qu'ils sentent qu'ils peuvent devenir le concurrent, le rival de Toulouse. Mais en même temps, en cas de nouvelle défaite, bah, ça va devenir la victime des Toulousains, la chose des Toulousains. Et ça, je pense qu'ils ne veulent pas. Ils ont l'occasion de s'installer à une altitude, encore une fois, où ils pourront regarder certaines équipes dans les yeux, celles qui ont fait le doublé. Et sinon, en cas de défaite, ça deviendra parmi les meilleurs des outsiders. Encore une fois, je le répète, en cas de défaite ce soir, la pression deviendra une obsession.
Ok.
Alors,
Fred Vels.
Évidemment pas d'accord à ce qu'il est en train de dire, parce que quand on est un club comme Toulouse, alors de ce que j'ai compris, moi je suis pas aussi spécialiste du rugby que vous, mais c'est un des plus grands clubs de sport collectif, tout sport confondu en France.
On bien est sûr.
Voire le plus grand, parce que beaucoup m'ont dit que j'étais pas suffisamment rugby et que c'était le plus grand. Donc à partir du moment où t'es le plus grand, ta vie c'est de la pression, déjà. Par définition, ta vie, c'est de la pression. Quand tu gagnes pas de titre, c'est une catastrophe. Il faut se rendre compte que cette équipe a gagné 10 finales de suite, 7 du championnat de France. Chaque fois qu'ils ont fait une finale, pardon, ils ont gagné ces finales. Donc ça veut dire que cette équipe qui perdrait là, non seulement serait fanny, donc ça serait une année sans titre pour Toulouse, si ce serait une catastrophe pour un si grand club que ça.
C'est déjà arrivé, Sam.
Oui, mais ce que je veux dire,
mais qui a dominé la saison en plus en top 14.
Exactement, qui a dominé la saison en top 14, donc ce serait quand même quelque chose de négatif, parce que tu casserais ce cycle de 10 finales, 10 victoires. Donc tu serais cette équipe-là qui serait fanny, qui n'aurait pas de titre, qui serait cette équipe-là qui casserait ce rythme de victoire. L'année dernière, tu fais un doublé. Honnêtement, la pression, elle peut être que sur toi. Parce que de l'autre côté, l'UBB, ils viennent de gagner un titre, leur premier titre. Est-ce que c'est pas déjà une saison réussie pour eux? Ils sont en finale maintenant. Ils n'ont plus rien d'approuvé. Justement, ils vont être super tranquilles, super décontractés, parce que eux ont fait le taf en battant Toulouse en plus sur le chemin. Donc, ceux qui sont le plus en difficulté,
c'est le Stade Toulousain. Allons voir Philippe Saint-André.
Ben, je vais être tout à fait d'accord avec Fred. Et surtout, en plus, il faut pas oublier que le Stade Toulousain, cette année, ils ont perdu 3 fois contre Bordeaux. Ils ont perdu 2 fois en championnat, plus ils ont perdu en demi-finale de Champions Cup. La dernière défaite du Stade Toulousain en finale de top 14, c'est en 2006.
Contre Biarritz.
Depuis, voilà, c'est une machine à gagner les finales. Donc bien sûr que la pression sur ce match-là, elle est beaucoup plus sur le Stade Toulousain que sur Bordeaux. Bordeaux, déjà, ils sont rentrés dans l'histoire avec ce titre de champion d'Europe, et en plus ils peuvent devenir la meilleure génération, passer devant la génération de Vincent Moscato, etc., en faisant un doublé. Donc ils vont venir ce soir avec beaucoup beaucoup moins de pression que le Stade Toulousain, et surtout en plus le Stade Toulousain, voilà, ils sont passés à côté de leur demi finale, ils ont beaucoup d'absents, ils ont beaucoup beaucoup de blessés. Donc pour moi, la pression est beaucoup plus sur le Stade Toulousain que sur Bordeaux.
Mais il y a plusieurs lectures, non, excusez-moi. Parce que l'UBB a battu Toulouse 3 fois cette saison. Mais bon, si tu demandes aux Bordelais, celui qui veut le gagner, c'est ce soir.
La pression, elle est
nourrie par la peur de reprendre une fessée comme l'an dernier, 59-3.
Non, pas du tout. Pas du
évidemment, ils vont pas reprendre, même s'ils perdent ce soir. Mais demande-leur à l'UBB, évidemment qu'ils ont la pression.
Mais non, cette équipe,
la France, le monde du rugby les regarde. Ils ont pas envie de reprendre une déculottée. Mais l'an dernier, souvenez-vous, à la même époque, on se disait, alors que Bordeaux avait un match de plus, puisqu'ils avaient dû passer par les bases, on se disait, c'est peut-être l'année des Bordelais, peut-être que Toulouse est un peu moins fort, peut-être que Toulouse est un peu fatigué.
Tu comprends,
Simon,
après Denis.
Tu es Yannick Bru, qui est le manager de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Les gars, déjà, on a un titre.
Je suis sûr qu'il ne leur dira pas ça, justement.
Non, mais si tu préfères... Ils ont pris une branlée l'année dernière en finale contre le Stade Toulousain. Là, ils arrivent à 100% de leurs moyens. Ils ont pas joué le barrage, ils ont joué que la demi-finale. Ils ont eu le temps de récupérer. Ils ont moins de blessés que le Stade Toulousain. Ils ont une opportunité incroyable de rentrer dans l'histoire. Leur saison est déjà réussie.
Mais Simon,
leur saison est déjà réussie.
Non mais Simon, il y a un truc que tu ne prends pas en compte. Là, évidemment qu'ils vont avoir la pression, les Bordelais.
Mais tout le monde aura la pression.
Et une finale, laisse-moi finir. C'est du plaisir. C'est pas de la pression, c'est du plaisir.
Il y aura une pression pour appréhender le match toute la journée, tout ce qui va se passer, le déroulé de la journée, jusqu'au coup d'envoi. Mais cette pression aujourd'hui, elle est très positive du côté Bordelais. C'est là où je ne t'entends pas. Je ne peux pas t'entendre.
C'est de l'envie.
Ils sont tellement euphoriques, ils sont tellement positifs dans tout ce qu'ils font. Puis en plus, ils provoquent la chance, ils ont beaucoup de chance, mais là, ils vont la chercher. Mais comment tu veux qu'ils doutent à un moment donné qu'ils peuvent encore perdre contre le Stade Toulousain? Ils ont intérêt.
S'ils ne la gagnent pas celle-ci face à ce Toulouse-là, qui est handicapé quand même, il faut le dire, parce que quand l'extraterrestre il va revenir au poste de demi-mêlée, ce Toulouse sera beaucoup plus dur à battre.
Justement, tu nous parleras des absences toulousaines dans quelques instants, parce qu'évidemment ça va jouer ce soir certainement sur la pelouse du Stade de France. Il est 9h27, on revient dans quelques instants, on vous attend au 32-16, supporters toulousains et bordelais. On va poursuivre la discussion, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Denis Charvet, Fred Weiss, Simon Dutin. À partir de 10h, on parlera de l'Olympique Lyonnais. C'est évidemment l'une des informations de la semaine, rétrogradée en Ligue 2 la saison prochaine par la DNCG. Est-ce que le foot français doit tout faire pour sauver l'OL? Vous n'êtes pas d'accord, ce sera donc le bras de fer des GG. Mais restons un instant sur cette grande finale du top 14 entre le Stade Toulousain et l'UBB. C'est ce soir au Stade de France à 21h05 avec toute la bande, évidemment Wilfried Templier, Nicolas Paul Orsi, Denis Charvet. Wilfried Templier est toujours avec nous. Wilfried, parle-nous de toutes ces absences toulousaines ce soir pour ce grand match.
Alors il y en a beaucoup, mais je vais vous donner 4 joueurs qui auraient pu être potentiellement titulaires ce soir, hein. Peato Movaca au poste de talonneur, hein, rupture des ligaments croisés avant la demi-finale de Champions Cup face à Bordeaux. Alexandre Roumat en numéro 8, même si Anthony Jelonche l'était titulaire la semaine dernière, donc victime d'une commotion contre Bayonne et absent de la feuille de match. Ange Capozzo, blessé lors de la dernière journée de la phase régulière à Perpignan et qui faisait une drôle de saison, c'est le meilleur marqueur toulousain avec 9 essais, et évidemment Antoine Dupont, le capitaine, on le sait, blessé face à l'Irlande cet hiver et qui peut vous changer la face d'un match demandé aux Irlandais du Leinster l'année dernière en finale de Coupe d'Europe. Mais on peut rajouter
Arnold,
Castro Ferreira, Coste, voilà, Bitouni Yata. Il y a beaucoup de casse cette année au Stade Toulousain, et en face on citera quand même Adam Coleman, le deuxième ligne à Bordeaux, mais c'est vrai, il y a plus de fraîcheur et moins de casse du côté de l'UBB.
Vous le disiez, hein, c'est l'année où jamais pour l'UBB d'aller prendre ce Brennus. Philippe, comment tu juges là, à l'instant T, comment tu juges la saison toulousaine? Parce que quand même, au niveau des points, ils ont marché sur l'eau en top 14, et pourtant il y a un mauvais goût dans la bouche là au matin de cette finale.
Ouais, alors après, il faut faire attention avec eux, parce que c'est des sacrés compétiteurs, et quand ils arrivent en finale, ils changent complètement d'état d'esprit. Alors, mais pour moi, surtout, je trouve qu'ils ont tellement donné, il faut pas oublier qu'ils ont fait le doublé la saison dernière. Ils finissent cette année meilleure défense, meilleure attaque. Ils ont aussi beaucoup donné parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe de France. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je les trouve fatigués. En plus de ces blessés, on sait que Ntamack qui joue, il va se faire opérer lundi.
Il joue sous infiltration.
Genou. Il y a Blair Kingham, l'ailier ou arrière écossais, qui est pas à 100%. Il y a Meafou qui était titulaire avec l'équipe de France. Actuellement, il est remplaçant parce qu'il n'est pas à 100%. Donc, ils ont un effectif, je trouve, fatigué par rapport aux Bordelais qui ont beaucoup plus de fraîcheur. Mais pourquoi? Parce que le Stade Toulousain, ils sont au sommet depuis 5 ans, et qu'à un moment donné, c'est dur, les saisons sont longues, et donc je les trouve un petit peu émoussés sur cette fin de saison.
Mais la force des Toulousains, c'était justement d'être au top dans une fin de saison. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça.
Parce qu'il y a eu trop de blessés, trop de casse. Et puis, comme le dit Philippe, il y a beaucoup d'internationaux qui s'usent pendant le tournoi, la tournée d'automne.
Hugo Mola tournait énormément.
Le problème, c'est de digérer. C'est pas une saison, c'est digérer 4-5 saisons. C'est ça le problème.
C'est ça, ouais. Mais il n'y a pas suffisamment de coupures, parce qu'on parlait de faire tourner, mais il ne peut pas faire tourner encore un peu plus, parce que quand tu finis meilleure défense et meilleure attaque, c'est que tu as un peu de marge.
Mais il a fait énormément de tournées. tourner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il fait tourner surtout pendant les doublons, c'est-à-dire pendant les tests de novembre et le 6 Nations. Mais il fait tourner avec des jeunes joueurs, mais ces joueurs cadres jouent avec l'équipe de France pendant. Pas, en fait. Donc il tourne, mais tout son effectif a quand même beaucoup de temps de jeu.
Mais surtout, Philippe, je parle sous ton contrôle, on sous-estime quand même en permanence ce que fait le Stade Toulousain, parce que le Stade Toulousain, ils maintiennent un niveau de résultat. On va faire la fine bouche, et s'ils perdent ce soir, on se dira quelle saison ratée. Mais Toulouse, le miracle toulousain, c'est de rester la meilleure équipe, non, mais... alors qu'ils sont en reconstruction permanente. Il y a les Graou, il y a les Coches. Mais attends, les Brennan, je suis désolé.
C'est pas la reconstruction. Bah, c'est la transition.
C'est l'alimentation.
Non, c'est la transition.
Ils injectent c'est du sang neuf en permanence.
Oui, mais c'est pas
la reconstruction. Il y a des mecs qui s'intègrent dans cette équipe en permanence.
Mais c'est logique, ça. Si tu veux continuer à performer, il faut continuer à intégrer des joueurs. C'est logique.
Pas du tout. Ils sont habitués à l'exception.
Non, mais Simon, l'intelligence de Stade Toulousain, c'est justement avoir su régénérer leur groupe au fil des années.
Mais sinon, il s'est mort avant, bien sûr.
Tu peux pas parler de reconstruction.
Il y a Dupont Capozzo. Regardez, Coste n'est pas là. Coste, il y a un an, c'était personne. Et maintenant, on en est à se dire, à Toulouse sans Coste, c'est pas possible. C'est aussi le miracle toulousain permanent.
Simon, c'est vrai, c'est que. On est tellement habitué à l'excellence avec le Stade Toulousain que sur ce match de demi-finale où ils n'ont pas été excellents, mais ils sont en finale. Quel entraîneur rêverait de ne pas être bon en demi-finale et d'être présent en finale au Stade de France? Et le Stade Toulousain, là, cette génération, elle est incroyable. Par contre, la perte, quand même, pour moi, de Movaca et surtout d'Antoine Dupont, leur fait énormément défaut sur cette fin de saison.
Jean-François est avec nous, supporter toulousain. Bonjour Jean-François.
Salut les GG.
Bonjour Jean-François. Tu as composé le 32-16. Merci d'être avec nous ce matin. Alors notre question initiale, c'était qui a le plus la pression. Tu peux répondre à celle-ci, mais aussi faire évoluer le débat comme on l'a fait il y a quelques instants et de un petit peu faire le bilan de cette saison. On t'écoute Jean-François.
Alors, pour moi, qui a le plus la pression, et ça me va très bien, c'est l'ogre UBB.
C'est un vrai supporter toulousain.
Non, ils sont vraiment très très forts. Donc, toute la pression est sur eux. Nous, on a déjà gagné 23 boucliers. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont fanis. Donc, toute la pression est sur eux. Après, je connais pas bien leur palmarès, mais, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de Coupes d'Europe, beaucoup de boucliers. Je suis pas sûr.
Donc on va essayer de t'approcher. Pas le passé qui va jouer, hein. C'est le présent qui joue.
On dirait Guy Noves qui parle, là.
Exactement.
Vas-y, Guy.
On va s'accrocher au match. Après, allez, passons la blague. Franchement, les bébés font une super saison, ils sont hyper forts. C'est vrai que nous, depuis la défaite en demi-finale de Coupe d'Europe, contre l'UBB. On balbutie un peu notre rugby. On sait qu'on est qualifié direct pour les demi depuis longtemps. Donc, on a mis un peu moins d'engagement, je trouve, sur les matchs de top 14. On a quelques joueurs cadres qui, en plus, qui sont pas forcément blessés, mais qui sont pas au super, je pense surtout à Merfou, qui nous faisait gagner énormément de mètres, énormément de matchs l'année dernière. Je crois qu'il avait marqué 4 ou 7 essais l'année dernière.
Ouais, mais il a été malade, Merfou.
Ouais, il a eu un trou au poumon qui l'a bien pénalisé.
Il a du mal à
revenir à aussi impactant que ce qu'il a été.
Ouais, retrouver son niveau, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et lui, tu me diras, on n'avait pas en finale il y a 2 ou 3 ans.
L'absence d'Alexandre Roumat aussi.
Pardon Philippe,
ouais, mais... Roumat aussi, en touche, il va nous manquer, mais tu vois, il n'était pas titulaire sur la demi, je pense, c'était pas pour rien, il peinait un peu plus. Le petit Banos qui le remplace, je trouve, est un joueur super intéressant, avec du gaz, bon en touche, coureur, plaqueur, le petit Banos. Franchement, je pense qu'il y avait match entre les deux.
Tu parlais tout à l'heure, Philippe, de Romain Ntamack. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, comme ça, de le faire jouer sous infiltration, de le forcer? Il se force tout seul, évidemment, parce qu'il a très envie de finir cette fin de saison avant de se faire opérer. Mais tu prends un risque sur la santé du joueur, tout de même. Il est au courant. Je veux dire, Hugo Mola, il est au courant. Ouais, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse?
Je pense que c'est un choix assumé entre le joueur, le Stade Toulousain et l'entraîneur. Moi, hier, j'étais avec son papa. J'étais avec Émile. Lundi, l'opération est prête. Donc lundi, il va se faire opérer. Il a un morceau de cartilage qui bouge dans son genou. Donc c'est pour ça, des fois, il est très bien. Et des fois, ce morceau bloque le genou.
L'handicap,
donc il va avoir une opération lundi. Il va bien récupérer. Par contre, en n'étant pas à 100%, il est déterminant, il marque encore en demi-finale, et c'est vraiment leur maître à jouer avec lui et Ramos. Mais par contre, on le sait et on le voit, Ntamack, depuis 6 mois, il n'est pas à 100% de ses moyens physiques.
Ok, on remercie Jean-François d'avoir été avec nous au 32-16. Merci, bonne finale ce soir. Merci Wilfried Templier. Sachez que c'est une soirée exceptionnelle ce soir en direct du Stade de France avec Pierre Dorian, oui, qui sera au commentaire. Et oui, il remplace Christophe Cessieux. Il sera avec Wilfried Templier, évidemment, avec Denis Charvet, avec Nicolas Paolorsi, à partir de 20h, 23h30, spécial rugby sur RMC.
Oui. Je peux poser une question à Wilfried. Wilfried, c'est qui le favori pour toi?
Je pense que l'UBB a un petit avantage sur cette fin de, voilà, 51-49, je vais vous dire.
Ah, voilà. il a voulu te mettre dans les cordes. Ouais,
il a toujours la question subsidiaire. C'est comme Coach Courbis à la fin, là. Il te sort toujours là.
On a vu l'œil qui frise.
Mais tu sais très bien, Philippe, et tu l'as dit, le savoir-faire de Toulouse en finale. Et plus les gens disent que l'UBB est favori, et plus ça nourrit les autres.
On va se régaler à partir de 20h. Et sachez, on a beaucoup parlé du Stade toulousain, qu'à 10h30, on parlera de l'UBB, ce sentiment de revanche. Est-ce que c'est le meilleur moteur? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? Ça, ce sera à 10h30. On se retrouve dans quelques instants pour on s'en fout pas. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai le tirage au sort 4 à des Bleus à Wimbledon. On aura Marc Madio après le forfait cette semaine de David Godu, ou encore l'Euro de basket. Fred Weiss est avec nous. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un autour de cette table? Ça, je suis pas sûr. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
On est les meilleurs, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
9h43, de retour dans les grandes gueules du sport avec Philippe Saint-André, Fred Weiss, Denis Charvet, Simon Dutin. À partir de 10h, on va parler de l'Olympique Lyonnais rétrogradé en Ligue 2 cette semaine par la DNCG. Le foot français doit-il tout faire pour sauver l'OL? Ce sera notre bras de fer. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
On est gâtés pour le on s'en fout pas. J'espère évidemment que ça va vous intéresser. Tout d'abord, la première information à vous donner. Évidemment, vous connaissez le principe. Si ça ne vous intéresse pas, vous me dites je m'en fous. Et si tout le monde s'en fout, eh bien on zappe l'information. Donc la première à vous donner, c'est le tirage au sort horrible des Français à Wimbledon. On s'en fout pas. Fred Weiss.
Je m'en fous.
Il s'en fout. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Ok. Denis Charvet.
Je m'en fous pas.
Oui, c'est un petit je m'en fous pas. Mais bon, je prends, c'est plutôt pas mal. Oui. Philippe Saint-André.
Je m'en fous.
Ok, merci Denis. Le tirage au sort donc de Wimbledon. Les autres, lâchez le casque, je le dis pour Denis et pour les millions d'auditeurs
Denis,
qui nous écoutent.
On en a parlé hier au Moscato et déjà.
Oui, mais c'est pas grave.
C'est pas parce qu'on en a parlé dans le Moscato, là, c'est une émission sérieuse quand même.
Il y a d'autres sujets qui m'intéressent encore plus.
Très bien. Mais tu as le droit, attention, c'est peut-être pas un reproche. Hein. Le tirage au sort donc de Wimbledon n'a pas ménagé les Français hier. Vous allez pouvoir l'entendre parce qu'il y en a beaucoup qui vont devoir affronter un énorme morceau au premier tour. Eric Salio, qui va partir demain justement pour Londres, est avec nous. Salut Eric.
Salut les grandes gueules et merci de votre soutien.
Salut Eric.
Justement,
t'es où là? T'es dans un bateau?
Justement Eric, quand on voit le programme des Français, est-ce que tu y vas finalement là-bas?
Trois jours.
J'ai au moins un Français au deuxième tour, puisqu'on aura un derby entre Gaël Monfils et Hugo Humbert. Donc Gaël Monfils qui a tiré une tête de série. Non, mais ce qui est gênant, c'est qu'il y a 6 Français qui ont tiré vraiment des gros poissons, comme on dit, puisque Djokovic jouera contre Alexandre Muller, Giovanni Empeci, Péricard, qui défend un 8e de finale, a tiré Taylor Fritz, qui a gagné un tournoi à Stuttgart et qui est en finale à Eastbourne. Ouais. Benjamin Bonzi jouera Daniil Medvedev, Arthur Hinderknecht jouera Sacha Zverev, et puis Valentin Royer, qui lui sort des qualifs, qui est tout heureux, eh bien, jouera contre Stefanos Tsitsipas. Donc oui, c'est horrible, mais voilà, le problème, c'est que quand t'as une seule tête de série, tu t'exposes à des tirages très compliqués, mais là, on a touché le pompon. Là.
Et s'il y en a un qui pourra l'exploit, c'est lequel, tu dirais
Corentin Moutet, qui est en forme en ce moment. Il est en finale.
Corentin Moutet, il est en finale effectivement à Majorque, mais il a un premier tour très jouable contre un Argentin qui n'est pas habitué au gazon. Mais derrière, ce serait Dimitrov, déjà. Ouais. Mais non, la chance la plus sérieuse, évidemment, c'est Hugo Humbert, puisque on sait qu'il adore le gazon, il a déjà fait un 8e de finale, il avait menacé Carlos Alcaraz l'an passé. Il a un parcours assez bon. Il a Gaël Monfils et au troisième tour, il a un éventuel rendez-vous avec Ben Shelton, l'américain. C'est pas impossible, mais ça va être un.
Mais donc Gaël n'a aucune chance contre Humbert.
Mais Gaël déteste le gazon. Il déteste le gazon.
Et les filles, ouais. Eric,
t'as pas le droit de parler.
Les filles, on a que 3 filles sur la ligne de départ. Donc on a Varvara Gracheva, on a Diane Paris qui sort des qualifs, qui jouera une autre qualifiée. Et Elsa Jacquemot, qui elle aussi a tiré une tête de série, une polonaise, donc on a très peu d'espoir.
Ok, on l'entend au son de ta voix. Eric, est-ce que tu as prévu le retour mardi ou mercredi?
Non, mais on va rester jusqu'au bout parce qu'on peut avoir une finale merveilleuse. Pourquoi pas le remake de la finale Alcaraz-Sinner de Roland.
Bon, on en parlera d'ailleurs demain de cette finale de Roland, en tout cas de Sinner et de Alcaraz. Malheureusement, vous l'avez bien entendu, ça semble très compliqué pour nos Français, mais on va croiser les doigts, espérer un exploit. Merci Eric d'avoir été avec nous et bravo à Denis Charvet qui t'a sauvé, hein, parce que sinon tu passais pas dans l'émission.
Merci.
Et ça l'a intéressé. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Wemby, Gobert, Fournier, forfait pour l'Euro de basket. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je laisse à Big Fred.
Fred.
Je m'en fous pas.
Ben oui.
Je veux écouter Big Fred.
Moi aussi, je veux l'écouter.
Ok, ben on va l'écouter, les copains. Mais juste avant.
Vous Fred, donnez... ça veut dire qu'on est trois à s'en foutre, mais que.
Vous ouais, donnez on compris, ouais. L'information. Mais ils ne le disent pas clairement, ouais, parce qu'évidemment, tu es juste à côté d'eux.
Exact. C'est un très bon
hier, point. La sentence est donc tombée 2 mois, jour pour jour, avant le début de l'Euro basket masculin. Les stars Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier ne figurent pas dans le groupe retenu par le sélectionneur Frédéric Fotou. Justement, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Salut Morgane. Alors tu as vu le staff des Bleus hier, la direction avait-elle le moral?
Oui, avant sa première grande compétition à la tête des Bleus, Freddy Fotou avait le moral. Oui, on a beaucoup parlé de l'absent Victor Wembanyama. Un peu de l'absence aussi d'Evan Fournier, de Rudy Gobert. Ce groupe qui va préparer l'Euro compte 12 joueurs d'Euroleague, 6 de NBA, 6 qui ont été médaillés d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Pas de Wemby fin août, il ne sera pas guéri de sa thrombose veineuse. Boris Diaw, manager de l'équipe de France, il n'y a pas eu de pression, descend Antonio Spurs.
C'est pas du fait du club qui a freiné. On ne va pas juste sélectionner quelqu'un qui n'est pas apte à jouer. Donc.
Le plus capé de ce groupe de 18, c'est Vincent Poirier. 60 sélections devant Gershon Yabusele et ses 52 caps. Un effectif jeune avec 8 joueurs de moins de 25 ans comme Bilal Koulibaly ou Zakaria Rizaché, numéro 1 de la draft 2024. Cet Eurobasket lance le chemin vers Los Angeles 2028. C'est l'occasion de créer des alchimies, même sans Wemby. Freddy Fotou, le sélectionneur.
Le fait qu'ils ne soient pas là, déjà, c'est pas quelque chose de catastrophique non plus. Parce que on se doit aussi de créer une dynamique positive, de l'engagement total, et que ça reste des éléments aussi importants quand on veut avoir beaucoup d'ambition.
Les Bleus vont disputer 5 matchs de préparation à l'Euro à partir du 4 août. Monténégro, Grande-Bretagne, l'Espagne 2 fois et la Grèce avant un départ pour la Pologne, lieu de la compétition. Ils seront dans la poule de l'Islande, de la Slovénie, de la Belgique, d'Israël et des Polonais. La France reste sur 4 médailles sur les 5 dernières éditions de l'Eurobasket.
On se fixera au fur et à mesure de la progression de l'équipe un objectif beaucoup plus précis, je pense. Maintenant, je pense que si tu me poses la question à nous tous et aux 18 joueurs, quand on commence une compétition, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, et d'avoir le plus beau des résultats.
Le seul titre des Bleus dans un Euro remonte à 2013.
Avec la bande à Tony Parker, évidemment. Merci beaucoup, Morgane Maury. La semaine dernière, on avait ce débat, Fred. Tu n'étais pas là. On se demandait, on venait d'apprendre l'absence de Rudy Gobert en se disant, est-ce qu'on part sur une hécatombe? Bon, ben, une semaine plus tard, on a la réponse.
Ben, je sais pas si c'est une hécatombe. Non, je pense qu'on est sur une année de transition. Je pense que c'est important d'avancer, de continuer à avancer, d'incorporer dans cette nouvelle équipe menée par Freddy Fotou de nouveaux joueurs. On a parlé de Zakaria Rizaché qui a été drafté numéro 1 de la dernière draft. On a Alex Sarr qui a été drafté numéro 2. Donc on a du potentiel de jeunes. On a 2-3 plus anciens qui vont accompagner tout ça. Isaiah Cordigny, par exemple, qui a été la révélation des derniers Jeux Olympiques. Gershon Yabusele, par exemple aussi. Vincent Poirier qui fait son retour.
C'est la positive attitude dans le monde du basket quand même.
Non,
hein.
Non, mais pas
tout le monde dit, oh, c'est bien, c'est pas grave, c'est normal.
Non, non, mais évidemment que j'aurais préféré que Wemby soit là. Mais déjà, il faut qu'il se soigne. On ne sait pas exactement où il en est par rapport à ça. Et effectivement, il est important qui reprennent la compétition à 100%. Pour les deux autres, ils ont tellement donné qu'on serait un petit peu mal placé pour de dire qu'est-ce que vous faites.
Ça
serait un petit peu abusé. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ces forfaits. Il faut effectivement positiver. C'est une nouvelle fois la première compétition de Freddy Fotou en tant que sélectionneur. À partir de là, il faut travailler dessus. Le fait qu'il incorpore des jeunes, je trouve ça très très bien, parce que justement ça nous prépare à l'avenir. Après, on va avoir une année tranquille et on va aller sur la Coupe du Monde et les JO. Donc, Tout est parfait dans le meilleur des mondes.
Ok, c'est une compétition pour voir. J'ai bien compris. Exactement. Le sentiment, c'est donc fin août en tout cas. Et on suivra cette compétition attentivement. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est David Godu qui renonce au Tour de France. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Ok, Fred.
Je m'en fous.
Je m'en fous pas. Je m'en fous.
Ok, il y en a deux que ça intéresse. Alors c'est un coup dur hein, tout de même pour le cyclisme français. Le leader de la Groupama FDJ, David Godu, a annoncé jeudi qu'il renonçait à courir le Tour de France, quatrième de l'épreuve en 2022, mais victime déjà de quatre chutes depuis le début de la saison. Il préfère jeter l'éponge et se concentrer sur la Vuelta. Voici ce qu'il a déclaré à l'AFP. Vu mon niveau actuel, j'ai été transparent avec l'équipe. De toute façon, ils ont mes valeurs, mes données, et donc on a décidé ensemble de zapper le Tour cette année. Nous sommes avec l'une de nos GG, évidemment, le patron de la Groupama FDJ, Marc Madiot. Salut Marc.
Salut les amis.
Salut Marc. Salut Marc.
Est-ce que à une semaine du Tour, c'est un énorme coup sur la tronche ou non? Tu l'avais déjà anticipé?
Bah, c'est toujours un moment difficile quand on perd un de ses meilleurs éléments par rapport à un événement comme le Tour de France. Maintenant, on savait qu'on était sur une tangente. Donc l'objectif dans la vie d'une équipe, c'est d'être toujours prêt à parer aux éventuelles défections qu'on peut subir à tout moment jusqu'au dernier moment, au moment du départ de la course. Donc on était dans l'anticipation aussi dans ce domaine. Donc après analyse et concertation, on a conclu que c'était préférable pour lui comme pour l'équipe qu'il ne participe pas au Tour de France et qu'on refasse un reset et qu'on se remette en configuration de compétitivité par rapport à la deuxième partie de saison. Alors je sais que le Tour de France, nous le savons tous, que le Tour de France est l'événement majeur d'une saison, mais le temps d'un cycliste, ça s'arrête pas à une seule course. Donc pour nous, l'objectif, c'est d'être opérationnel et de remettre notre coureur dans de bonnes dispositions, une bonne situation. Il court après le temps depuis le début de la saison avec les chutes à répétition, et là, on était dans un mauvais timing.
À quel moment vous avez pris la décision avec lui? Ça s'est joué quand? Dans les dernières heures? Parce que nous, on a appris cette information jeudi. Est-ce que ça traînait depuis quelques jours? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on était en réflexion et en anticipation depuis un certain temps et on essayait de peser le pour et le contre. Il est clair que après le Giro, on essayait de se dire on va compenser, et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant tout le Giro, mais il a encore été victime d'une chute. Ce qui fait qu'on a toujours couru après le temps, et quand on court trop longtemps après le temps, il vaut mieux faire un reset et se remettre en bonne configuration pour pouvoir repartir sur de bonnes bases pour la dernière partie de saison, parce que là en fait on s'est aperçu qu'on courait après le temps, après la forme. Et la vie de l'équipe ne s'arrête pas à un coureur, et nous l'objectif du Tour c'est d'être performant avec toute l'équipe. Et on voulait pas partir avec trop d'incertitudes.
Simon Dutin, une question pour toi, Marc.
Justement, Marc, salut. Est-ce que ça change un petit peu ton plan d'attaque général pour le Tour? Est-ce que c'est Guillaume Martin qui passe leader? Est-ce que on s'adapte? Est-ce que tu...
Non, on est dans l'adaptation permanente. En fait, si tu veux, le but du jeu, il est de mettre Romain Grégoire dans de très bonnes dispositions. Il a été très incisif l'année dernière sur le Tour, et l'objectif, c'est que cette année sur le Tour, il porte à la conclusion avec une victoire d'étape sur notamment les premières étapes du Tour. Il y aura des opportunités. Donc le but du jeu, nous, c'est de mettre Romain Grégoire dans les bonnes situations pour pouvoir gagner une étape. Après, on a un garçon comme Guillaume Martin, qui est guillonnais, qui est très opérationnel. Alors c'est sûr, c'est pas quelqu'un qu'on remarque au premier abord. C'est quelqu'un qui est tenace, qui est hargneux et qui est toujours là, et qui, par sa régularité et son engagement, peut aller chercher un bon classement général. Donc on est dans cette configuration-là. Après, s'il y avait eu David en plus, ça aurait été forcément très très bien pour l'équipe. Maintenant, c'est pas le cas pour le moment. On va faire sans lui, mais on va partir avec des gars qui ont envie d'être là, qui sont prêts à être là, et qui auront l'esprit de sacrifice si besoin par rapport à un coureur comme Romain Grégoire. Donc on n'est pas sur le papier une équipe favorite, loin s'en faut, mais on a une équipe sympa avec de l'ambition, et on va aller chercher quelque chose, j'en suis persuadé.
Justement, Marc, au-delà du fait qu'on t'adore, évidemment, dans cette émission, tu le sais, t'es avec nous très régulièrement, je ne sais pas pourquoi je le sens bien cette année. Autant l'année dernière, je ne le sentais pas terrible, je vais être très franc avec toi, autant cette année, je ne sais pas pourquoi je le sens bien. Et même quand j'ai appris pour David Godu, je me suis dit, c'est peut-être un mal pour un bien.
De toute façon, de toute situation, il faut essayer de tirer le meilleur parti possible. Hein. On ne va pas se lamenter pendant 107 ans sur le sujet. La concurrence est rude, il faut être prêt, il faut être opérationnel. Et le but du jeu et le but de l'équipe, c'est d'être au plus près, au mieux, pour les prochains jours qui vont arriver avec le départ du Tour. Donc, on est triste de ne pas avoir David, mais on est concentré sur la composition de l'équipe, sur les gars qui vont être autour. Et puis demain, il y a un championnat de France aussi à aller chercher.
Donc, on est tourné vers les prochaines courses, que ce soit le championnat ou le Tour.
Et on sait à quel point c'est important, déjà le championnat de France, et puis ensuite le départ du Tour samedi prochain à Lille. Nous serons là sur RMC pour en parler dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup, Marc Madiot, de nous avoir donné des nouvelles de ton équipe. Évidemment, on suivra attentivement, et puis on te repassera quelques coups de fil. Merci, Marc.
Je compte sur vous joindre pour échanger sur le Tour, bien évidemment.
Mais bien sûr. Allez, bon championnat de France. Salut, demain, Marc. Et que ça revienne, ouais, évidemment, un copain de la groupe AMA-FDJ. Salut. Allez, 9h56, on se retrouve dans quelques instants. L'Olympique lyonnais, le foot français, doit-il sauver l'OL? À tout de suite sur RMC.
T'es grand, t'es très grand, allez, bon grand.
RMC, les grandes gueules du sport.